بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ خير، je pense qu'aujourd'hui on va essayer de compléter le sourate Al-Balad. Donc c'est le troisième vendredi qu'on aborde, donc on traite de la Uqsimu bihad Al-Balad. Alors la dernière fois on avait vu deux mises en garde, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard des kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama disent que cela peut être également pour n'importe quelle personne à n'importe quelle époque. Ces deux mises en garde, c'est ayahsabu allan yaqdira alayhi ahad. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui. On avait vu que cela concerne la personne qui jouit de tous les bienfaits, qui bénéficie de tous les bienfaits d'Allah, jusqu'à un tel point qu'elle croit qu'elle est intouchable, qu'elle est inaccessible. Et l'autre mise en garde, c'est ayahsabu allam yarahu ahad. Pense-t-il que nul ne l'a vu. On avait expliqué que lorsqu'un être humain accomplit une action bonne comme mauvaise, quel est le nombre de témoins qui enregistrent cette action. Il y a avant tout Allah Ta'ala qui connaît ce qu'on a accompli comme action. Il y a également les deux anges qui inscrivent les bonnes et les mauvaises actions. Il y a également les anges qui font le relais du matin jusqu'au asr et jusqu'au lendemain et qui rapportent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah sait mieux qu'est-ce que l'être humain accomplit comme action. Il y a la terre sur laquelle l'action est accomplie, qui témoignera le jour de la résurrection, et il y a le livret de compte. Alors comment est-ce qu'une personne peut être aussi inconsciente en pensant que si j'accomplis quelque chose, personne ne me voit? Alors on voit bien que lorsqu'un être humain accomplit une action, Allah Ta'ala est au courant de ce que cette personne fait. Bon, ça c'est d'une manière un peu générale. Alors aujourd'hui on va voir trois ni'mat qu'Allah Ta'ala rappelle à ces gens. Alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatayn وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Alors, ces trois ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite, on commencera par أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. Allah ta'ala fait reconnaître à cette personne qu'il l'a donné, donc, deux yeux. Et les mufassirin, rahimahumullah, ils expliquent que tout comme Allah Ta'ala, et tout comme cette personne, elle pensait que personne ne peut le voir quand elle accomplit telle ou telle chose, ou lorsqu'elle est importunée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne comprenne que celui qui lui a donné deux yeux et celui qui a donné une langue et des lèvres pour pouvoir parler, ce créateur qui lui a donné ces ni'mat pour voir et pour parler, lui il voit, il a encore plus la possibilité de voir ce que sa créature fait, et il est au courant de ce que sa créature donc prononce comme parole bonne ou mauvaise. Donc les ulama disent également que les yeux, c'est certainement le plus grand ni'amat qu'un être humain il puisse avoir concernant donc sa constitution physique. Parce que la personne qui perd, qu'Allah nous protège, la personne qui perd l'usage de ses yeux, c'est une personne qui ne retrouvera jamais plus le goût à la vie. Une personne qui perd l'usage de ses yeux, c'est quelqu'un qui ne retrouvera plus jamais le goût à la vie. Et nous savons également comment c'est une épreuve terrible de la part d'Allah, comment c'est une épreuve terrible que lorsqu'une personne est éprouvée dans sa vue, à un tel point que les hadiths garantissent le paradis pour la personne qui a perdu sa vue et qui fait preuve de patience. Ce genre de personne, le paradis est assuré pour eux. Et d'ailleurs, on voit que dans beaucoup de pays, beaucoup de grands ulama, ils ont été éprouvés par la perte de leur vue. On citera juste, bon, ça, c'est vous savez, chaque pays a ses ulama, chaque pays a ses mufti. Il y a Cheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, qui était avant le mufti d'Arabie Saoudite, qui est décédé il y a à peu près 8 ou 9 ans, 9 années de cela à peu près. Il était aveugle, malgré sa cécité. C'était le mufti le plus connu dans toute la péninsule arabe, et ses livres sont édités et se trouvent dans le monde entier. Et même son successeur, Abdelaziz Al-Sheikh également, il a une grande faiblesse au niveau de la vue, et quand il fait ses khutbahs le jour d'Arafat, on le voit avec donc des grosses lunettes. Donc ça c'est une épreuve qu'Allah Ta'ala on voit sur certaines personnes, et celui qui s'est fait preuve de patience, celui qui s'est fait preuve de patience, Allah Ta'ala l'accorde automatiquement le paradis. Également, il y a un masla qui dit, quelle est la personne la plus méritante? Une personne qui demande la sadaqa, une personne qui, par exemple, est handicapée, une autre est aveugle, une autre personne a tel problème. Elle dit, la personne qui mérite le mieux, qui mérite le plus d'être aidée, c'est la personne qui est aveugle. La personne aveugle, c'est la personne la plus vulnérable et la plus dépendante, et c'est celle qu'on doit aider en priorité. Et c'est les yeux, ça c'est une création ajib de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces yeux nous permettent de voir une quantité de couleurs qu'aucun appareil ne pourrait détecter. Lorsque, une fois, je, subhanallah, je montais en voiture, aller à la plaine, d'accord, on regardait la montagne, on dit, subhanallah, regardez le nombre de couleurs vertes qu'il y a dans la montagne. Lorsque vous montez à la plaine des Carpes, la plaine des Palmiers, tout n'est pas vert pareil. Et il y a au moins 20 ou 30 verts différents. Il y a le vert de la montagne, il y a le vert des feuillages, il y a le vert des arbres, il y a le vert, etc. On dit, subhanallah, louange à celui qui a créé sa création avec autant de perfection et autant de recherche de détails. Et en même temps, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne une vue pour pouvoir admirer sa création. Parce que si quelqu'un est aveugle, on peut l'amener vers les plus beaux paysages, la personne ne ressentira ou ne verra clair, ne verra rien du tout. Et de nos jours, on a des GSM qui sont de plus en plus sophistiqués. Il y en a qui disent, je ne sais pas, combien de millions, je ne sais pas, peut-être à finir avec des milliards aussi, 5 mégapixels. C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment, 5 mégapixels. Mais le nombre de pixels, c'est quoi? C'est la quantité de couleurs possible. Enfin, c'est un terme technique que je ne maîtrise pas trop non plus. Mais plus vous avez des pixels sur un portable, plus la qualité de l'image sera bonne. Mais le pixel que vous avez avec vos yeux, ça, aucun appareil ne pourra reproduire. Jamais un appareil ne pourra reproduire une image ou une perception d'image ou la perfection d'image que vous avez avec votre vue. Même si vous prenez un plasma, les haute définition HD, l'image est belle, mais ce qu'un homme voit avec ses yeux, la perfection dans les détails, dans les formes, ça c'est quelque chose qui est propre à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est totalement donc inimitable. Donc, les yeux, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est un ni'mat qu'Allah ta'ala accorde à l'homme, mais malheureusement, nous considérons ces ni'mat comme des acquis, comme si c'est naturel, c'est normal de l'avoir. Et lorsqu'Allah éprouve une personne en reprenant cette vue ou en l'affaiblissant, c'est là que la personne, elle prend conscience qu'il n'y a rien qui a de plus de valeur que ses yeux. Une personne qui peut être pauvre, vraiment malheureuse sur cette terre, elle se dit que je n'ai rien du tout. Mais si elle se rendait compte de l'importance de ses yeux, combien il y a des personnes qui n'ont plus l'usage de leur vue, ils sont peut-être très riches, ils seraient prêts à payer 2 milliards de dollars par œil. Est-ce que cette personne serait prête à vendre un œil, même à 3 milliards de dollars? Jamais de la vie. C'est là qu'on se rend compte réellement du ni'mat qu'Allah Ta'ala nous accorde. Et cet œil, comme tous les jawarih, comme tous les membres du corps, cela nous a été donné par Allah, c'est un amana, et à nous de l'utiliser comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande. Et les ulama disent que ce que l'œil perçoit, aura un effet direct sur le cœur. Un œil qui a l'habitude de voir que des visions pures, où il y a le nour, la rahmat d'Allah qui descend, une masjid, des assemblées de dhikr, ou alors quelqu'un il va au haramain, il voit la Kaaba, il voit les lieux saints, il y a un effet direct entre ce qui est vu, il y a donc un effet direct sur le cœur. De même, dans le cas contraire, une personne qui passe son temps à regarder des choses haram à la télévision, ou sur internet, ou dans un livre, un magazine, ou alors dans la rue, la personne ne contrôle pas son regard, elle regarde ce qu'elle veut, même si cette personne est régulière dans ses ibadat, même si elle n'accomplit rien d'autre comme péché, mis à part le fait de regarder ce qui lui est interdit, il y a un effet direct sur son cœur. Le cœur sera imprégné par ce que cette personne va voir du matin jusqu'au soir. D'où l'importance de baisser le regard. Ce n'est pas juste le fait de contrôler sa shahawat, ce n'est pas juste le fait de contrôler ses passions, mais c'est également protéger son cœur d'attaques ou d'images qui vont marquer, qui vont rester enregistrées dans le cœur de cette personne et qui vont cumuler les points noirs donc sur le cœur de cette personne. Donc, Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, et Allah Ta'ala fait reconnaître également qu'il a donné à l'homme une langue et deux lèvres, la lèvre donc supérieure et la lèvre inférieure qui permettent à l'homme de parler. et regardez la grandeur d'Allah dans sa création. Une personne qui donc a une langue normalement constituée, a pas de souci, mais qui a des brûlures au niveau des lèvres, ou qui a, il y a parfois certains médicaments que vous prenez, ça vous enlève toute la peau au niveau des lèvres et ça fait mal, vous ne pouvez plus avoir de contact. La personne qui a les lèvres abîmées ou brûlées ou je ne sais quoi, même si elle a une langue, elle ne pourra pas parler correctement. Et vice versa, quelqu'un peut avoir l'usage de ses lèvres normalement et que sa langue est coupée ou blessée, la personne ne parlera pas correctement. Donc, Allah Ta'ala a donné donc l'usage des lèvres et la langue pour permettre à l'homme, de s'exprimer donc correctement. Et regardez, subhanallah, juste pour parler des lèvres, Taïb, lorsque vous dites, vous prononcez le son B, ba, hein, ça fait partie des lettres de l'alphabet arabe qui se prononce à l'aide des lèvres, Taïb. Et lorsque vous prononcez la lettre mim, c'est également les lèvres qui sont sollicitées, mais de manière différente. Avec le ba, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, vous expirez légèrement. Ba, il y a un petit peu d'air qui sort. Le mim, il n'y a pas d'air qui sort. C'est-à-dire que ça, c'est la qudra d'Allah, l'usage de ses membres, c'est-à-dire avec une différence qui n'est même pas perceptible. Ce sont là deux sons différents qui sortent. Alors, on ne va pas entrer dans des cours de biologie, mais les ulama disent également, regardez la perfection dans la création d'Allah lorsqu'on analyse d'où vient la voix. Ce sont donc les cordes vocales. Elle dit, les cordes vocales, c'est quoi? Elle dit, c'est comme des petits fils dans la gorge. C'est comme des petits muscles, mais c'est comme des fils. C'est peut-être, je ne sais pas, comme des ligaments ou des choses très fines. Et lorsqu'on parle donc avec les vibrations, avec l'air, etc., etc., ben, différents sons peuvent sortir. Des sons aigus, des sons graves. Hein, ça, une personne peut prononcer un son très aigu et un son très grave, etc., etc. Tout ça, c'est la qudrat d'Allah. Et si quelqu'un a une rupture des cordes vocales, la personne ne peut plus parler. Voyez? Donc ça, tout ça, si l'être humain réfléchissait, il comprendrait la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Mais bon, on ne va pas trop insister là-dessus parce qu'on veut, on aimerait compléter la sourate Al-Balad ce soir, inshallah. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ. Alors, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ, et ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Les Mufassirines disent qu'Allah Ta'ala a montré à chaque être humain طريق الخير et طريق الشر. Et c'est là c'est un chapitre nouveau qui commence donc dans le Sourate Al-Balad. Allah Ta'ala explique qu'il a montré à chaque homme, chaque être humain, le chemin de la droiture et le mauvais chemin. Et le prophète dit dans le commentaire du hadith pour ce verset, innahuma, non, innama huma najdan, que les deux chemins, il y a najdul khair ou najdul shar, le chemin de la droiture et le chemin de l'égarement. Wala yakunu najdul shar ahabba ila ahadikum min najdil khair. Faites attention que le mauvais chemin ne soit pas plus appréciable pour l'un d'entre vous que le droit chemin. Et on va voir que ce chemin najdul khair wa hadaynahu najdain, cela est commenté dans le verset suivant, falaqta hamal aqaba, oh, il ne s'engage pas dans la voie difficile, wa ma adraka mal aqaba, et qui te dira ce qu'est la voie difficile. Alors Allah Ta'ala, il continue donc dans ce verset, Allah Ta'ala, il fait la reproche à ces personnes que donc, comme chaque être humain, ils ont vu, ils connaissent quels sont les deux chemins à prendre, et malheureusement, ces gens ne prennent pas le chemin difficile. Alors, al-aqaba, c'est un peu technique, il faut revenir au sens des termes. Les deux termes sont techniques, c'est des mots qui ne reviennent pas souvent. Al-aqaba et al-iqtiham. Al-aqaba, c'est quoi? C'est un chemin dans une montagne. Al-aqaba, c'est un chemin difficile d'accès, donc en côte dans une montagne. Et al-iqtiham, c'est s'orienter dans un chemin avec difficulté. Donc Allah il reproche à ces personnes de ne pas avoir choisi donc ce chemin qui est difficile. Quel est donc ce chemin qui est difficile? Alors que nous savons que dans n'importe quel cas, le hadith dit que lorsqu'on avait le choix en deux choses, il prenait ce qui était le plus facile. Ça c'est clair. Mais là c'est différent. Le al-aqaba, falaqtaham al-aqaba, on pourrait dire que c'est le synonyme de sirat al-mustaqim. Pas exactement ça. Mais ça se rapproche de Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Mais ce droit chemin, il est rempli d'épines. Ce droit chemin, il est rempli d'épines et il est rempli de difficultés. Alif lam mim, ahsiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Quand quelqu'un il veut affirmer son iman, cette personne sera automatiquement éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama disent pourquoi le chemin de la droiture a été qualifié comme étant un chemin difficile, on accélère, on va aller plus vite. Un chemin difficile, c'est parce que dans ce chemin de la droiture, il y a le mujahadatun nafs. Le musulman, il se doit de contrôler ses passions, de contrôler ses envies. Je ne mange pas ce que je veux. Je ne bois pas ce que j'ai envie de boire. Je ne vais pas où je veux. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Non. Je fais ce qu'Allah m'a autorisé de faire. Je mange ce qu'Allah a rendu halal. Je vais dans les endroits où il n'y a rien de haram. C'est-à-dire tout ce que j'ai envie. Ce n'est pas n'importe quand j'ai une envie, j'ai un désir, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Non. Ça s'appelle ittiba'ul hawa. Et Allah Ta'ala décrit qu'il y a des gens qui sont arrivés à un tel point qu'ils obéissent leur instinct, leur passion aveuglement. Ce qu'ils veulent faire, ils font à un tel point que c'est comme si leur nafs est devenu le ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Personne qui prend sa shahawad, ses passions, comme son propre ilah. C'est-à-dire ce qu'il lui dit de faire, il le fait exactement. Donc c'est un chemin qui a été qualifié de difficile par le terme aqaba, un chemin difficile d'accès parce qu'il y a le mujahadatun nafs. Il y a également les pièges de shaytan à éviter. Les waswasa et les tromperies de shaytan à éviter dans ce chemin difficile. Et il y a également la patience à développer. Et les trois catégories de patience doivent faire partie des qualités du musulman s'il veut réussir dans ce aqaba, dans ce chemin difficile qui mène vers Allah, c'est-à-dire être patient dans l'obéissance envers Allah, c'est-à-dire dans l'accomplissement du ibadah, être patient face au péché, ça on a compris, et être patient face aux difficultés de la vie. Et ce n'est pas pour rien si, lorsque Hazrat Jibril Salam avait visité l'enfer, hein, et qu'il a vu quels sont les péchés, ça c'est un hadith qu'on a déjà cité beaucoup de fois, quels sont les péchés qui emmènent les gens vers l'enfer, et lorsqu'il a vu le paradis, il a vu quelles sont les actions à faire pour aller vers le paradis, il s'est dit que personne n'accédera au paradis et tout le monde ira en enfer. Parce qu'il a vu que pour aller en enfer, il y a tellement de tentations qu'il s'est dit que jamais un homme, sachant la faiblesse de l'être humain, jamais un être humain ne pourra résister aux tentations qui mènent vers les passions et donc qui débouchent vers l'enfer. Donc ce chemin, mes chers frères, n'est pas facile. C'est pas qu'on est musulman, on est NIT, on est né musulman, on va grandir, on va mourir, on va aller dans le Firdaus, birer les hisab. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ce n'est pas que nous sommes musulmans, nous vivons dans notre religion, nous mourrons musulmans, et dans la tombe, notre tombe est un jardin du paradis, et nous sommes ressuscités avec les Anbiya, nous entrons au paradis, le livre de compte dans la main droite. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pour arriver à ce summum, l'accès au Firdaus, le contentement d'Allah, c'est un chemin difficile à suivre. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat qu'on ne mène pas que dans Ramadan. Mais analysons Ramadan, quels sont les sacrifices qu'on fait dans Ramadan, comment on ne fait pas. Non, pour les jeunes, on ne fait pas la bisophie. Hein, on ne va pas faire n'importe quoi. Le samedi soir, on reste tranquille. Telle chose, on faisait, on ne fait pas. Le mujahada qu'on fait, on contrôle son regard, on contrôle ses paroles, on ne discute pas inutilement. Mais c'est ce mujahada qu'on doit retrouver toute l'année. Et ce n'est pas facile. Mais c'est ça le chemin tumultueux et difficile, ce chemin sinueux de Al-Aqaba qui mène donc dans cette montagne et donc Al-Aqaba, Iqtiham Al-Aqaba, ce chemin difficile donc qui est synonyme de Sirat al-Mustaqim, du droit chemin. Et Allah Ta'ala dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, et qui te dira, Alhamdulillah, et qui te dira qu'est-ce que c'est donc Al-Aqaba, ce fameux chemin difficile, et là Allah Ta'ala va expliquer quelles sont les actions qui mènent, qui permettent à l'homme de réussir son parcours dans ce chemin difficile. Alors Allah Ta'ala va citer quelques actions. فَكُّ رَقَبَةً. Tout d'abord, c'est délier un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave. Alors, comme on avait déjà parlé de ça il y a quelque temps, on ne va pas s'attarder, mais j'oublie juste un hadith, une grande photocopie, exprès pour l'oublier, j'ai oublié. Lorsqu'Allah Ta'ala parle de ni'amat des yeux et du fait de parler, dans un hadith, il dit que قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا تلجي يا ابن آدم قد نعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكر ولا تطيق شكرها. Ô fils de Adam, donc c'est un hadith Qudsi, ô fils de Adam, en ce sens, je t'ai donné des bienfaits, beaucoup de bienfaits que tu ne pourras même pas énumérer ni compter, et tu ne pourras pas me remercier pour tous ces ni'amat, pour tous ces bienfaits. وَإِنَّ مِمَّا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ Et parmi les bienfaits que je t'ai donnés, أَنْ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنَيْنِ تَنْظُرَ بِهِمَا Parmi ces bienfaits que je t'ai donnés, les yeux par lesquels tu peux voir. وَجَعَلْتُ لَهُمَا غِطَاءً Et je t'ai donné avec ces yeux quelque chose qui permet de les protéger et de les couvrir, c'est-à-dire les paupières. فَنْظُرْ بِعَيْنِكَ إِلَى مَا أَحْلَلْتُ لَكَ C'est clair, si quelqu'un ne cligne pas des yeux pendant plus de je ne sais combien de secondes, bien, le liquide intérieur sèche et la personne perd sa vue. Si quelqu'un garde les yeux ouverts en permanence, ce qui est humainement impossible, même si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas. Votre cerveau oblige la paupière à se refermer. Hein, essayez un jour, si vous voulez, si vous avez du temps à perdre, si vous ennuyez tellement, en attendant chez le dentiste par exemple, essayez de garder vos yeux ouverts. Même si vous avez l'envie de le faire, vous ne pouvez pas. C'est plus vous qui commandez, votre cerveau ordonne à la paupière de se refermer. Donc quelqu'un dit, bon, mais ça fait un jeu, j'arrête de respirer. Vous ne pouvez pas faire ça. Même si vous arrêtez à un moment donné, votre cerveau, c'est comme un moteur d'urgence qui démarre. Vous allez respirer. Parce que vous commencez à suffoquer. Donc ça, c'est ni'amat. Et si quelqu'un ne pouvait pas cligner des yeux, ben, tout ce que, le liquide à l'intérieur se serait asséché. Donc ça, c'est un ni'amat. Et où on va en venir, c'est que lorsqu'Allah Ta'ala, il fait reconnaître à l'homme le bienfait des yeux, Allah Ta'ala, il dit, فَانْظُرْ بِعَيْنَيْكَ إِلَى مَا أَحْلَلْتُ لَكَ Regarde avec tes yeux uniquement ce que j'ai rendu halal, licite. C'est bien de remercier Allah, alhamdulillah, les yeux de ni'amat. Le remercier Allah ash-shukr, on a dit que ash-shukr c'est bil lisan wal jawarih. Le remerciement, faire preuve de gratitude, de reconnaissance pour un bienfait, c'est avec la bouche en disant alhamdulillah, louange à Allah, remerciement à Allah, mais c'est également avec les membres, en utilisant ce membre précis comme Allah le veut. Donc Allah il demande explicitement à l'homme d'utiliser ses yeux dans l'obéissance d'Allah. Wa in ra'ayta ma haramtu 'alayka fa atbiq 'alayhima ghita'ahuma. Et si tu vois quelque chose qui ne t'est pas licite, si tu vois quelque chose qui est haram, qui est illicite, alors referme ce couvercle qui est sur tes yeux, c'est-à-dire rabattez les paupières, fermez les yeux pour ne pas voir ce qui est haram. Et ensuite, Allah t'a dit, وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا وَجَعَلْتُ لَهَا غِلَافًا فَانْطِقْ بِمَا أَمَرْتُكَ وَأَحْلَلْتُ لَكَ فَإِنْ عَرِضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَغْلِقْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ Et je t'ai donné une langue. Et avec cette langue, il y a rilafa, il y a une couverture, c'est-à-dire quelque chose qui le protège, c'est-à-dire les lèvres. فَانْتِقْ بِمَا أَمَرْتُكَ Donc, utilise ta langue uniquement pour parler, pour dire des propos qui sont jaïs, qui sont autorisés. Et si, فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا Si tu as l'intention de prononcer des paroles haram, alors amsik, on pourrait dire amsik lisan, c'est-à-dire contrôle ta langue et referme ta bouche et donc n'utilise pas ce bienfait dans le haram. Donc ce hadith Qudsi hein, qui rejoint le sens de ce verset qu'Allah Ta'ala il donne les bienfaits, l'homme se doit d'être reconnaissant en disant Alhamdulillah, Nashkurullah, etc. Mais en plus d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. On peut continuer 5 minutes? On termine à la Oksimu, Inch'Allah? Inch'Allah, hein, on en est à 23 minutes. En général, on fait 30. Mais on est peut-être un peu fatigué aussi, parce qu'on va un peu lentement. Donc, Fakkurakaba, on ne va pas s'attarder dessus. Allah Ta'ala donne les recettes pour la personne accède à ce chemin difficile, hein, le fait de libérer les esclaves. Et ça, on avait déjà expliqué comment le prophète, il y a 1500 années, avait incité les Sahaba à libérer les esclaves, alors que du côté de chez nous, ce n'est qu'en la reconnaissance, hein, les hommes naissent libres et égaux, c'est en 1789, Taïb. Et à la réunion de l'Edom, hein, il y a peut-être quoi, un siècle et demi, hein, qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage avec Madame Desbassins, Madame je ne sais qui encore, bref, tout ça, hein, ça a été éliminé, on en a terminé, il y a peut-être allez, 100, 150 ans, pas plus que ça. Et tous les 20 décembre, donc, on fête hein, la fin de l'esclavage, bref, alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, depuis 1500 années, il encourage les Sahaba à libérer les esclaves. On rappelle que le suratul Balad est un surat makki. C'est des sourates du début, donc, de l'islam. Et pour ne pas trop entrer dans les détails, lorsqu'on parle de libérer les esclaves, les ulama disent que c'est soit une personne qui possède l'esclave qui libère, ou quelqu'un qui va encourager ou aider quelqu'un à avoir sa liberté en l'achetant ou en donnant de l'argent pour qu'il puisse acheter des vêtements. Bon. Le sujet n'est plus d'actualité, mais comprenons qu'Allah Ta'ala cite cela en premier, pour qu'on comprenne quelle est l'importance de libérer un esclave. On avait certains hadiths, mais on va, par souci de temps, on va peut-être passer dessus. Un hadith dans lequel le prophète a dit que quelqu'un qui libère un esclave qui a iman, pour chaque membre de son corps, c'est un membre de son corps qui sera protégé du feu de l'enfer. Hein, les bras, vous libérez un esclave, par rapport à ses bras, vos bras ne brûleront pas. Par rapport à son visage libéré, votre visage ne se brûlera pas, etc. Et il y avait un sahaba qui avait un hadith qui était quand même assez beau, un sahaba qui est beau comme tous les hadiths, un sahaba qui avait entendu cela de la part d'une autre personne. Et le sahaba, il a demandé, tout d'abord, il a dit que, est-ce que tu es sûr? Tu l'as entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La personne dit, oui, je suis sûr. Là, on voit comment le sahaba, quand il entendait quelque chose, il demandait est-ce que c'est vrai. De nos jours, on entend tout, n'importe quoi, les vrais, toutes les vraies, des hadiths, des récits, des histoires, un moun a fait ça, un moun a marché de l'eau, un moun a fait quoi, tout, on gobe tout. Nous sommes comme des éponges, hein, on a oublié que si notre dîn est aussi fiable et constitue vraiment une valeur sûre, c'est parce que DSA, il y a eu des ulama qui ont fait des travaux énormes de recherche pour que tout ce qui est dit dans cette religion est prouvé depuis l'époque où elle a été prononcée et pourra être prouvé jusqu'au Qiyamah. Donc il y avait un hadith et Qaddar Allah, je me suis trompé de livre, c'était Ibn Kathir, j'ai amené Al-Fakhr al-Razi, khair, inshallah. Donc ce hadith, le rabbi dit, voilà, est-ce que tu l'as entendu? Lui, après cette personne, il appelle un de ses esclaves, un de ses plus beaux esclaves, et il dit, je te libère pour liwajhillah, par amour pour Allah, pour rechercher le contentement d'Allah, maintenant tu es libre. Bref, les ulama disent que regardez, sahaba, lorsqu'ils entendent quelque chose, ils ont pas, déjà ils n'ont pas besoin de 2 ans et demi de bayan. Mais la personne, c'est un hadith que le prophète m'a dit telle chose. Première réaction, est-ce que c'est authentique? Tu l'as entendu? Oui. Deuxième réaction, c'est quoi? Al-amal. Mettre en pratique tout de suite. Nous, on a besoin de 2 ans et demi de bayan. Et quand, c'est vrai, ce qu'il dit, il est vrai. Et quand on est dehors, c'est fini, c'était vrai. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Mais la vie, pas pareil. Maintenant, ils sont en pleine, ça, même ta vie, comprends pas, nous, dunya, pas pareil. L'écoute, tout dit, il est vrai, ben, ça t'aide. Allah, Allah, Allah. Mais quand il dort, alors, nous retrouvons nos mauvaises habitudes. Sahaba, non. Une parole. Parce que iman, là, il est prêt à accepter din. Ce iman, si vous lui apportez kalamullah ou kalam rasoul, automatiquement, il met en pratique. Sam'an wa ta'an. Immédiatement, il libère un de ses plus beaux esclaves pour mettre en pratique cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah t'a dit, fakku rakaba, raqaba, pardon, avec un qaf, ou it'amun fi yawmin zi masgaba. Taïb. Ou nourrir en un jour de famine. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, pour ne pas faire trop long, on continuera la prochaine fois. Parce qu'après, il y a la leçon à retenir, la conclusion. Ça va être long. Donc, le dernier verset, parmi les actions que l'homme doit faire pour réussir de ce chemin difficile qui mène vers Allah, c'est « it'amun fi yawmin di masraba » donner à manger dans des jours de difficulté. C'est-à-dire lorsqu'il y a la famine. Lorsque les gens n'ont rien à manger, c'est là que vous donnez dans le chemin d'Allah, c'est là que vous donnez aux gens. Et les ulama disent que le fait de donner à manger aux gens, c'est une action appréciée par Allah. Comme le prophète l'avait dit, on avait déjà dit ça la dernière fois même, que lorsque le prophète a dit que comment vous voulez entrer au paradis, vous voulez entrer au paradis avec grande facilité, hein, parmi les choses, c'est quoi? Faites la prière la nuit lorsque les gens dorment et it'am ou ta'am, donnez à manger aux gens. Donner à manger aux gens riches comme pauvres, hein? Faire ikram, ça c'est une action qu'Allah Ta'ala apprécie. Et ça c'était à la base de toute chose. Lorsque le Prophète, même il recevait un kafir, il donnait à manger. Un bédouin il vient, le Prophète dit accepte l'islam, je te donne ça. Il a donné un troupeau de moutons tout entier. Faire ikram, donner, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là c'est précisé donner dans des moments difficiles. Et les ulama disent qu'une action qui est faite, et ça nous intéresse particulièrement à la Réunion. Lorsqu'une action est accomplie dans un contexte difficile, la récompense est encore plus grande. De la même manière, lorsqu'on s'éloigne du péché dans un contexte difficile, Allah Ta'ala connaît le sacrifice. Et ça, c'est un exemple qu'on dit toujours. On parle, par exemple, de contrôler son regard ou s'éloigner du zina. De nos jours, le zina est partout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, il vient vers vous. Quelqu'un qui veut faire le zina dans un pays musulman, en Arabie Saoudite. Vous voulez faire le zina, ben, il faudra vraiment chercher où le bonheur et il faudra peut-être connaître tel endroit, un tel cantine, un petit truc, telle affaire. Chercher pour arriver à faire le zina. Taïb. Tandis qu'à La Réunion, le zina, il est à tous les coins de rue. Le regard, pour voir une femme, par exemple d'un pays arabe, ben, peut-être il faut aller à Jeddah, dans un centre commercial, là, peut-être elle ne mettra pas son châle. Autrement, ce n'est pas possible. À La Réunion, le zina, le contrôle du regard, il est à 90% difficile. Il est tellement difficile. Et dans ces moments de difficulté, dans ces moments de tentation, dans un contexte aussi critique, si on arrive à rester dans le droit chemin, l'action a encore plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas pour rien si d'autres versets rejoignent ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de dire concernant le fait de donner ce qu'on aime ou lorsqu'on n'en a pas. Lorsqu'Allah dit le Coran, « Wa'at al-mana ala hubbihi » que la personne qui donne, mais qui donne de l'argent qu'elle aime. On ne donne pas de ce qu'on n'utilise plus. Hein, concernant la nourriture, on a déjà expliqué, on ne donne pas le manger de la veille, les vêtements. Ce n'est pas donner des vêtements troués, usés, ou des vieux vêtements, non. Lorsqu'on donne, on donne ce qu'on aime, ce qu'on peut utiliser encore. Quand Allah t'a dit également, notre verset, « Lantana l'ulbirra hatta tunfiqo mimma matuhibboun » Vous n'atteindrez jamais la piété tant que vous ne donnez pas de ce que vous aimez. Et le présent me dit que Allah est tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Allah, il est bon, il accepte que ce qui est bon. On ne donne pas dans le chemin d'Allah ce qui est prêt à aller à la poubelle. Soit c'est de le bac jaune, soit c'est pour donner aux pauvres. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça. Tayyib, lorsqu'on donne ce qu'on aime. Et vous connaissez les histoires, yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasa. Ces personnes qui avaient reçu l'invité, je crois, sallam. Ils n'avaient rien à manger pour un petit peu de manger juste pour les enfants. Elle dit, va, couche les enfants, toi. Je te tiens à l'écart, tu amènes le manger, et lorsqu'on passe à table, éteins la lumière, c'est comme si ta lampe ne marche plus, et l'invité va manger, je fais semblant de manger. Au moins, lui, il aura le ventre plein. Allah Ta'ala a tellement aimé cette action, sacrifice de quelqu'un qui lui-même est en difficulté. Allah Ta'ala a révélé un verset concernant donc cette personne. Et donc, pourquoi on a, je voulais absolument insister là-dessus, donner à manger dans des moments difficiles, ben, vous savez, en ce moment, même si ce n'est pas exactement le contexte du verset, mais en ce moment, lorsqu'on. Tout le monde le sait, quelle période de crise nous traversons. Ben, quelqu'un qui donne sadaqa, qui aide la masjid, ou qui aide un pauvre, ou qui aide la madrasa, alors que tout le monde sait que nous sommes dans une période de crise qui n'a pas eu son semblable depuis, je ne sais pas, 1900. Comment on dit ça? 1948, ça? Hein? 1925? Non, après, il y avait une révolution des étudiants et tout, là. 48, ça, non? 48, hein? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une crise économique importante, hein? 1929 aussi, bon, ben, je ne connais pas trop les chiffres, mais ça fait longtemps. En tout cas, ça fait longtemps que le monde n'a pas connu, vous voyez, les mesures qui sont prises, le G20 et tout, pas une. Donc, ce sont des moments difficiles. Mais dans ces moments de difficulté, donner sadaqa, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas comme quand on donne sadaqa, qu'on a le compte en banque qui est plein. C'est facile, si vous avez 10 000 euros de votre compte, vous donnez 10 euros. Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, non, vous n'avez rien fait. Vous c'est tandis que la personne qui n'a pas trop les moyens ou qui est dans des situations un peu difficiles, enfin du moins difficiles, malgré ça, elle donne dans le chemin d'Allah, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je discutais avec quelqu'un dernièrement, une personne hein, qui m'expliquait, me disait que tout compte fait, cette crise économique, hein, là on a terminé avec le tafsir, elle dit cette crise économique a un bon côté. J'ai dit, ben c'est quoi? Non, on ne voit que le mauvais côté. Il dit non. Il a dit, depuis qu'il y a la crise, j'ai appris à économiser. C'est une personne qui dit, alhamdoulilah, très bien, tous les moyens, tout ce qu'il faut. Il a dit, avant, lorsque j'allais faire mes courses, tout ce que je trouvais bien, je mettais dans mon caddie. Ah, tel biscuit, on met tel chocolat, on met, ah, ça, les enfants, ils vont aimer. Ça, on va faire cuire ça. N'importe quoi. Ce que j'ai envie, ce qui me plaît dans les rayons, je mets dans mon chariot. J'ai l'argent. C'est quoi le problème? Vous voyez? Elle dit, mais depuis qu'il y a la crise, il y a moins d'argent. Les prix, ils ont un peu augmenté aussi. Vous voyez? Depuis qu'il y a ça, lorsque je fais mes courses, je réfléchis. Je compare. Si j'avais pas l'habitude de prendre le produit sourire, maintenant on prend le produit sourire. Même si la qualité, elle est vraiment savourie, rien du tout. Mais on fait des économies. Vous voyez? La personne me dit que je fais des économies. La personne me dit également, elle dit, avant, quand on mangeait, tu restes le midi. C'est présent, la fête de riz, je sais pas, mais un carré de poulet, un carré cabri, un carré canard, peu importe ce qu'on mange, ce qu'on a mangé. S'il reste, par exemple, poulet, hein, il reste un cuisse ou un morceau de blanc, elle dit, ben, m'appelle un moun, il me dit, viens, prends un petit peu, manger à rester. Elle dit, maintenant, je ne veux plus ça, moi. Si manger à rester, je me donne mon mari le soir. Et mon mari, lui-même, avant, il était un peu maniaque dessus, elle dit, ah, manger rassis, hein, il ne mange pas, manger fine, réchauffé, il ne mange plus, moi. Je suis au moment, il me dit, manger frais. Je suis au moment, mais au moment, il n'a pas connu la crise, allez. Elle dit, maintenant, mon mari, il dit, mais, donne plus de moun, chauffe-nous, on mange. J'écoute cette personne, je lui dis, mais tout compte fait là, il y a un grand khair dedans. Parce qu'on est en train de rejoindre al-ikhtisad fi an-nafaqati nisf al-ma'ish, ma'ishati wa ma'ishi. Or, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que faire preuve de juste milieu, faire des économies dans ses dépenses, c'est déjà la moitié de la baraka de l'orosie, si on pourrait dire comme ça. Alors que de nos jours, on a oublié ça. Dans la société où on vit, c'est une société de consommation sans limite. On vous pousse à la consommation. Vous êtes riche, venez consommer. Vous êtes pauvre, consommez quand même comme le riche, il n'y a pas de problème. On vous donne des facilités de paiement. Maintenant, dans certains endroits, vous achetez une voiture. Non seulement il y a 0 euro d'apport, premier apport dans 3 mois, mais en plus il vous donne un chèque de 2000 euros. Ah, il y a chacun le taux. Mais il ne paye pas rien. Il ne paye pas rien le mois prochain, il ne paye que dans 3 mois, et en plus il a moins de 2000 euros. Mais comment résister? Je ne parle même pas du caractéristique de l'intérêt haram, on ne parle même pas de ça. Je vous dis que quelles sont les tentations, comment on nous pousse à consommer. Et beaucoup, vous avez vu en Amérique, les gens, par centaines ou par milliers, ils sont expropriés parce qu'ils achètent des maisons, des crédits de 20 ans, et ils n'arrivent plus à payer. On comprend pourquoi c'est haram, le crédit de l'islam. Et de nos jours, les gens, ils achètent des meubles, des salons, voitures, telle chose. Ils ont des crédits qui parfois arrivent, atteignent 60 à 70% de leur salaire. Et si vous rajoutez avec ça l'électricité, l'eau, le GSM, le téléphone, telle chose, taxe d'habitation, voilà, c'est plus rien. Et les coûts, c'est plus rien. L'essence, qu'est-ce qui reste? Vous voyez? Ça, c'est un problème énorme. Et s'il y a bien un avantage, un côté positif de cette crise, c'est que beaucoup de personnes, même les personnes qui vivaient bien, aisées, de manière aisée, ils comprennent qu'il faut faire des économies. Et ça, c'est une hikmat. Ça, c'est un principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait. Le fait de ne pas gaspiller, c'est important. Et Allah dit le Coran, « Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin » que les gens qui gaspillent, ce sont les frères de Shaitan. Le Coran dit que ce sont les frères de Shaitan, les gens qui gaspillent. Ça c'est haram, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour machin, pour la nourriture et tout. Le prophète a même dit que lorsqu'une personne, il fait le wudu, il faut faire en sorte d'utiliser le moins d'eau possible, pas de gaspillage. Hadithi, walau kunta ala nahrin jarin. Même si vous êtes près d'une rivière qui coule, ne gaspillez pas l'eau. Une rivière, bah, que vous tirez une moque ou deux moques, quelle différence? Même si vous faites le wudu dans une rivière, ne gaspillez pas l'eau. Il y a des milliards de mètres cubes d'eau, mais malgré cela, ne gaspillez. Parce que le gaspillage, ça c'est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans cette crise, il y a beaucoup de gens qui ont compris que, ben voilà, il ne faut plus gaspiller, il faut faire des économies, il faut regarder qu'est-ce qu'on achète, il ne faut pas jeter manger, il faut réchauffer, donner, habituer les enfants à manger des produits de base. Il y a une personne qui me dit que moi, mes enfants, ils ne mangent rien de biscuit. Ils ne mangent pas de pain, ils mangent rien de biscuit. Et pas n'importe quel biscuit, hein. Ou d'aller biscuit, excusez-moi, un casino, sourire au premier prix, il ne mange personne, hein. Il veut biscuit la marque. Elle dit, maintenant, c'est plus pareil. Et après, maman, il mange de pain. Il mange de pain de beurre. Au pire, acheter un macacha poulet. Si maman, la bouche est fine. Ah non, moi, je mange des croissants le matin. Je mange des feuilletés. Feuilletés, mais absolument de pain. On mange de pain. Et si de pain, elle restait demain ou à mort de pain la veille. Mais ça allait d'être un peu machin, mais ça, il y a une chikmat, ça c'est tezkiya, ça c'est notre propre correction. On apprend c'est quoi vivre dans la simplicité. Parce qu'il y a des, si vous allez à 1000 km à gauche ou à droite, il y a des gens qui n'ont même pas ça à manger. Wallahi l'azim. Wallahi qu'Allah nous permette de comprendre. Et maintenant regardez, de ce sommet de, on ne va pas rentrer dans la politique, de G20. Qui sont les pays au monde qui ont les moyens maintenant? Les seuls pays au monde qui peuvent vous apporter de l'argent cash direct, combien? 200 milliards? 300 milliards de dollars direct. C'est qui? Les pays arabes. L'Arabie Saoudite? Je ne dis pas ça parce que je suis là-bas. Non. L'Arabie Saoudite, les Émirats, Qatar, Dubaï, Sharjah, etc., etc. Oman, parce que ce sont des pays où le riba est interdit. Il y a bien des banques qui pratiquent l'intérêt, mais c'est minoritaire. Où le système bancaire est conforme à la chariate. Ce qui fait que même s'ils ont eu des petites difficultés avec cette crise, mais ils n'ont pas été touchés à plein fouet. Si certains pays ont été touchés, leur économie a été touchée à 80%, eux, ça a été 3 ou 4%, basta. C'est tout. Parce que le système a toujours été un système qui est en accord avec la chariate, où il n'y a pas d'investissement au-dessus de la valeur de la chose, ou un investissement aveugle, ou des endettements sur long terme avec intérêt, il n'y a pas tout ça. C'est qu'il y a que c'est des pays, vous avez besoin d'argent, ils veulent investir. Là, regardez comment la France est... Ça, Jid, hein, devant la chariat, complaignant maintenant les nizams islamiques. Alors qu'avant, on ne voulait même pas entendre parler, au nom de la laïcité, on ne voulait pas entendre parler de la finance islamique. D'accord ? C'est vrai, on comprend, ils ne veulent pas mélanger laïcité avec des clauses d'une religion, je comprends. Mais lorsqu'ils ont vu la Grande-Bretagne, qui ont accueilli la finance islamique depuis 20 ou 25 ans avant, les anglo-saxons, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Ils ont leurs défauts, mais ils ont également leur qualité. Depuis 20 ou 25 ans, ils ont accepté la finance islamique de leur royaume, ce qui fait que les pays arabes qui sont remplis d'argent, depuis qu'il y a eu cet petit problème en Amérique, voyez, les Arabes, ils investissent plus en Amérique parce que leurs comptes sont gelés là-bas. Ils disent, quel pays nous accueille? Ils font hijrat, leur argent gratte. Mais il faut bien placer quelque part. Mais ils mettent en Angleterre. Maintenant, la France a compris quel est l'intérêt de la finance islamique. Ce n'est pas par un mois pour la chariat, c'est parce qu'ils ont besoin de fonds. Et les seuls pays qui ont des fonds, c'est qui? C'est les pays arabes, parce qu'ils sont restés dans le nizam mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il y a al-i'tidal, il y a le juste milieu, et il y a, regardez même, le pape, Benoît XVI, j'allais dire Jean-Paul, il est fini, le pape Benoît XVI, lui-même, il dit, avant le G20, il réclame le retour de l'éthique dans le commerce mondial ou dans la finance. L'éthique, c'est quoi? Les valeurs. Qu'on ait des valeurs, qu'on ait une morale dans nos transactions. Il ne faut pas faire des choses à longue échelle, endetter les gens. Les pays riches vont devenir extrêmement riches. Et les pays pauvres, qu'ils crèvent, le plus important, c'est que nous, on taille, retour de l'éthique. Et cette éthique, on le retrouve, c'est l'axe, tout tourne autour de l'éthique dans la finance islamique. Comme à tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. La semaine prochaine, on va terminer ça, inshallah. Et puis, on va voir si on peut commencer notre surah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.